Les matins débutent avec le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La Coupe du Monde féminine de football débute aujourd'hui en France, une compétition sans aucun pays arabe. Pourtant, le sport est en plein essor dans la région, comme l'a constaté Christian Cheneau, avec pour objectif l'émancipation des femmes dans les sociétés moyen-orientales.
Le géant de l'électricité EDF cherche à se désendetter. Un plan stratégique est dévoilé aux cadres dirigeants aujourd'hui. Il pourrait conduire à la scission du groupe. Les précisions d'Anne-Laure Chouin.
Le coût de la contrefaçon en Europe, 56 milliards d'euros par an. Un fléau pour certains pays, particulièrement pour l'Espagne, où une dizaine de secteurs est touchée. La contrefaçon représente parfois jusqu'à 10% des ventes de certains produits. Et la question du jour, Guillaume, tout à l'heure à 7h12.
Eh bien, après la dette grecque, comment gérer la dette italienne? Nous poserons la question à Xavier Timbaud, il est économiste et directeur principal de l'OFCE.
C'est le début de la Coupe du Monde féminine de football. Ce soir, les Bleus vont ouvrir la compétition avec un match face à la Corée du Sud. 24 équipes vont s'affronter pendant un mois pour tenter de succéder aux États-Unis, championnes du monde il y a 4 ans. Et parmi ces 24 formations, il n'y a aucune équipe en provenance d'un pays arabe. Pourtant, le football s'y développe petit à petit. Les jeunes filles montrent d'ailleurs de l'intérêt pour ce sport, Christian Cheneau. Et grâce à l'action de pionnières, le football pourrait bien prendre une place importante dans les années à venir.
Au Moyen-Orient, Honet Al-Jayeh est une pionnière du ballon rond. Cette Palestinienne de 35 ans est la cofondatrice de l'équipe nationale féminine de Palestine. Dans les territoires palestiniens, le football permet à la jeunesse, le temps d'un match, d'échapper à l'occupation israélienne. Pour les jeunes filles, c'est aussi un moyen d'émancipation, explique Honet Al-Jayeh.
Il y a 19 clubs de football féminin et le nombre augmente. Vous pouvez voir une rebelle chez les filles qui veulent un futur meilleur. Elles adorent le foot, elles veulent progresser. En Palestine, le football, c'est plus qu'un jeu, c'est tout, c'est l'identité, c'est une reconnaissance, c'est en fait nous mettre sur une carte.
Dans les pétromonarchies arabes, l'évolution de la condition féminine se joue aussi sur les terrains de football, constate Ouria Ettaheri, première femme entraîneur d'une équipe féminine dans le golf.
Aux Émirats, ça change vraiment, parce qu'on a de bonnes installations pour que les femmes puissent jouer. En fait, nous avons des difficultés avec des gens qui pensent que les femmes ne devraient pas jouer au football. Ils considèrent que c'est un sport réservé aux hommes. Ce n'est pas facile d'être accepté aujourd'hui, mais avec le temps, ça viendra, car nous montrerons ce dont nous sommes capables.
Et Ouria Ettaheri de rêver qu'un jour, une équipe arabe féminine remporte la Coupe du Monde de football.
Un reportage de Christian Cheneau. Dossier sur cette Coupe du Monde féminine à retrouver sur franceculture.fr. Sachez que près d'1 million de billets ont été vendus pour cette compétition. Le match d'ouverture France-Corée du Sud se déroulera à 21h au Parc des Princes à Paris en présence d'Emmanuel Macron. Et de son côté, le Premier ministre Édouard Philippe, lui, invite les 79 eurodéputés français aujourd'hui au programme une journée d'échange autour des thématiques à venir au Parlement européen. L'objectif, c'est de former une sorte d'équipe de France à Strasbourg. L'initiative, toutefois, ne passionne pas les foules. Les insoumis et Europe Écologie Les Verts n'iront pas. Les Républicains, eux, enverront leur tête de liste, François-Xavier Bellamy, tandis que le PS enverra Sylvie Guillaume par courtoisie républicaine, signe que l'adhésion est plutôt faible. Tenter de réunir tous les eurodéputés français n'a pas de sens, explique Pierre Larouturou, élu sur la liste de Raphaël Glucksmann.
Ce qui se joue au Parlement européen, ce n'est pas la France contre le reste de l'Europe, absolument pas. Nous, on siège avec les socialistes espagnols, les socialistes allemands, pour provoquer un sursaut au niveau européen. On a été élus parce qu'on voulait changer de politique, lutter contre la concurrence fiscale, lutter contre la casse des services publics, tandis que les amis d'Emmanuel Macron vont siéger avec les libéraux qui veulent continuer la concurrence fiscale. Bien sûr, s'il y a un moment où les intérêts de la France sont mis en jeu, on pourra faire bloc commun. Mais l'enjeu, et on commence dès la semaine prochaine des négociations sérieuses, et où va l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la justice sociale? Qu'est-ce qu'on fait pour agir très fortement sur le climat? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger les services publics au lieu de les abîmer? Qu'est-ce qu'on fait pour consolider les systèmes de retraite ou les systèmes de protection sociale? Évidemment qu'il y a des moments où on sera d'accord, et tant mieux, mais là, la façon dont ça a été marketé, mettre en scène une équipe de France qui est derrière le Premier ministre français, c'est juste une blague.
L'eurodéputé socialiste Pierre Larouturou avec Stéphane Robert. Les députés à Paris, cette fois, qui ont voté hier la possibilité d'un assouplissement des 80 km/h sur les routes secondaires. Les présidents de conseils départementaux, voire certains maires, dans quelques cas, pourront déroger à cette limitation de vitesse. Une condition, toutefois, il faut que le plus haut niveau de sécurité routière soit assuré, selon Édouard Philippe. Les routes nationales resteront, elles, à 80 km/h. heures. Il est désormais trop tard pour déclarer vos revenus 2018. La rallonge de 48 heures accordée par le gouvernement a pris fin à 23h59 hier. Petit délai supplémentaire accordé suite à un problème sur le site impots.gouv.fr. Il a reçu plus de 3 millions de connexions. En 30 minutes, il pourrait s'agir d'une attaque informatique. Deux enquêtes sont ouvertes, l'une par Bercy, l'autre par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information.
7h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Maxime Fayol. La grève dans les services d'urgence continue hier. Plus de 200 personnes ont manifesté à Paris.
Infirmiers, aides-soignants, médecins venus de toute la France à l'appel du collectif Interurgence. Ils dénoncent toujours leurs conditions de travail, notamment l'insécurité grandissante dans les services d'urgence, toujours plus sous tension. Les absences pèsent sur les soignants. Ils demandent au gouvernement plus de moyens. Hier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, leur a répondu. Elle annonce un soutien financier aux services en tension, mais aussi la création d'une mission de refondation des services d'urgence. Trop abstrait, largement insuffisant pour les grévistes. Mélanie est infirmière à l'hôpital d'Angers. Pour elle, le mouvement n'est pas prêt de prendre fin.
C'est quelque chose qui va se poursuivre. Si on n'obtient pas satisfaction, on tapera plus fort. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi notre santé qui est en péril. C'est pas que les patients qu'on accueille, c'est aussi notre santé à nous. On se donne corps et âme, et franchement, c'est le cas. On est rappelé sur nos jours de repos. Il faut qu'on remplace les collègues qui sont en arrêt, qui tiennent plus. Faut qu'on soutienne les collègues à la sortie du travail qui sont en pleurs parce qu'on a passé une journée horrible. C'est ça notre quotidien. Donc à un moment donné, s'il faut passer à l'étape supérieure en suivant l'exemple de d'autres centres hospitaliers concernant les arrêts maladie, c'est ce qui va se passer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est déterminés et on ne repartira pas sans avoir de réponse. Et on continuera ce mouvement tant qu'on n'aura pas de réponse concrète maintenant. Et on ne veut pas entendre parler d'un groupe de travail qui aura lieu au mois de septembre, de distribuer des indemnités localement, c'est tout ou rien. Voilà, et pour tout le monde.
Mélanie, infirmière à Angers avec Clément Comte. Problème financier aux urgences, un quotidien dans les services publics et dans les entreprises publiques. C'est notamment le cas chez EDF. Le géant de l'électricité doit présenter à l'État un plan de restructuration dans les prochaines semaines. Les cadres dirigeants en connaîtront les grandes lignes aujourd'hui. Le groupe présente une dette abyssale de 35 milliards d'euros et doit continuellement investir dans le nucléaire. L'idée de ce projet serait donc de scinder le groupe en deux, Anne-Laure Chouin. D'un côté, une maison mère et une holding de l'autre côté, dans un but simple, assainir les comptes d'EDF.
Depuis quelques années, le groupe voit son état financier se dégrader, du fait notamment de l'ouverture à la concurrence et d'une production d'énergie nucléaire moins dynamique, ce qui pèse sur le cours de son action et a fait gonfler sa dette. Pour les syndicats et certains économistes, cette dette n'est pas due à des coûts de production qui seraient trop élevés, ça c'est ce qu'a pointé le ministre de l'écologie en début de mois, mais plutôt à l'État lui-même qui a fait en sorte que EDF rachète les réacteurs nucléaires d'Areva en 2016 et plombe ainsi ses finances. Le rôle de la CRE, l'autorité régulatrice qui fixe les prix, est aussi pointée du doigt. Des prix régulés beaucoup trop bas, jugent les syndicats qui estiment qu'ils sont en deçà du coût de production de l'énergie nucléaire. Quoi qu'il en soit, le groupe va devoir trouver de l'argent frais et pour rendre cela plus facile, la direction devrait donc proposer de décomposer EDF en une maison mère qui garderait le contrôle des activités nucléaires et une holding dans laquelle la maison mère garderait la majorité. Cette holding regrouperait les autres activités d'EDF, notamment les énergies renouvelables. Holding qui enfin serait en capacité de lever plus facilement des fonds par hausse de capital. On aurait ainsi, pour simplifier, une activité nucléaire pilotée de près par l'État dans la maison mère et d'autres activités sortant du giron et privatisées. Comment sera partagée la dette entre ces différentes entités? Ce sera l'un des points à trancher, sachant que de très gros investissements s'annoncent à l'horizon pour rénover notamment le parc nucléaire.
Anne-Laure Chouin, le projet sera présenté au syndicat d'ici deux semaines. Un chiffre impressionnant ce matin publié dans un rapport de l'ONG WWF. 600 000 tonnes de déchets plastiques rejetés chaque année en mer Méditerranée. 22 pays sont pointés du doigt par l'ONG, notamment la France, qui contribue à hauteur de 10 000 tonnes par an de déchets en mer. WWF qui ajoute plus globalement qu'un quart des déchets plastiques de ces pays sont rejetés dans la nature chaque année. Au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui que la démission de la première ministre Theresa May est effective. En pratique, pourtant, rien ne va changer puisque Theresa May reste en place jusqu'à la désignation de son successeur. Elle s'occupe des affaires courantes pendant cette période qui pourrait durer 3 à 4 semaines. La contrefaçon en Europe coûte 56 milliards d'euros chaque année. C'est le résultat d'une étude de l'Office pour la propriété intellectuelle publiée hier. 56 milliards d'euros et près de 500 000 emplois perdus du fait de ses activités. En France, le manque à gagner se chiffre à 7 milliards, mais d'autres pays sont bien plus touchés. C'est notamment le cas de l'Espagne, Marie-Hélène Ballestero, où la contrefaçon représente plus de 10% des ventes dans certains secteurs.
Il est 18h. Dans le hall d'entrée de la station de métro Sol à Madrid, une dizaine de vendeurs à la sauvette guettent les clients. Faux sacs et montres de luxe, films et logiciels piratés, copies de vêtements et baskets de marque. La contrefaçon et le piratage, on le vend en poupe en Espagne. Une situation dénoncée par Luis Berenguer, porte-parole de l'EIPO, l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle.
C'est le seul produit illégal qui est vendu devant tout le monde car il n'y a pas vraiment de condamnation morale. Les sanctions sont également très légères. Un changement culturel via une prise de conscience et une révision des peines pourrait permettre de lutter contre la contrefaçon.
D'après le nouveau rapport de l'EIPO, les pertes annuelles engendrées en Espagne par les pirates et contrefacteurs s'élèvent à près de 7 milliards d'euros, soit 146 euros par habitant et 54 000 emplois seraient directement perdus. Selon Luis Berenguer, certains secteurs sont particulièrement pénalisés.
Les secteurs les plus touchés sont d'abord les vêtements, les accessoires, les chaussures, puis ensuite les cosmétiques. Environ 15% des ventes des entreprises de ces secteurs sont perdues chaque année à cause de la contrefaçon. Sur l'ensemble de ces produits vendus en Espagne, pratiquement 1 sur 6 est un produit contrefait. La contrefaçon nuit au quotidien de l'économie.
Les conséquences économiques de la contrefaçon et du piratage sont lourdes et l'impact est encore plus fort en Espagne. Le HIPO espère que les consommateurs vont enfin en prendre conscience.
Reportage de Marie-Hélène Ballestero. La mort du chanteur américain cette nuit, Dr. John, il avait 77 ans, récompensé 6 fois aux Grammy Awards. Il reste l'un des pianistes phares des années 60-70. Le temps de ce vendredi, 8 départements de l'Ouest sont en alerte orange au vent. La Charente-Maritime, l'Indre, l'Indre-et-Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne. Des départements qui seront sous la pluie ce matin avec une France coupée en deux entre Est et Ouest. De la pluie à l'Ouest, du soleil à l'Est, les températures de 9 à 15 degrés.